La cohabitation entre voisins, c'est pas toujours simple. Que ce soit en ville ou à la campagne, dès que les humains sont forcés de vivre à proximité les uns des autres, ça crée des problèmes. Tapage nocturne, arbres qui poussent entre deux propriétés, rythmes de vie différents, désaccords politiques, les raisons de se friter avec ses voisins sont multiples et déclinables à l'infini. Mais au moins, quand on fait un effort, il y a toujours moyen de trouver une façon de résoudre le conflit. Par la communication notamment. Sauf que ça devient un peu compliqué quand le voisin en question s'avère appartenir à une espèce un peu différente de la nôtre. Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp, saison 6, le podcast énergie qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. En 1975, lassés de la vie urbaine, les Nunnally emménagent dans une petite ferme isolée dans la campagne du Kentucky, près des berges de la rivière Green. La famille est composée des deux parents, Red et Rose, et de leurs 6 enfants. Peu de temps après leur emménagement, ils se mettent au travail et plantent 3 hectares de tabac. Rose s'affaire à planter des légumes et des arbres fruitiers pour nourrir ce petit clan. Ils achètent également des poules et des coqs pour peupler le grand poulailler, et ainsi s'assurer d'avoir assez d'œufs et de viande pour compléter leur alimentation. Toute la famille met la main à la pâte, et les enfants s'habituent vite au rythme de la vie à la ferme. Chaque jour, ils savent qu'ils doivent finir leur corvée avant d'aller jouer. Ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est explorer la nature environnante à la recherche de vieilles pointes de flèches. Ils passent donc le plus clair de leur temps dehors. Mais cette liberté a un coût. Et la famille découvre assez rapidement qu'elle vient d'emménager sur un territoire déjà occupé. Dès le printemps, ils s'aperçoivent que leurs poules ont une fâcheuse tendance à disparaître, ne laissant derrière elles qu'une poignée de plumes. Ces disparitions sont d'abord attribuées aux belettes et autres prédateurs qui habitent la forêt aux alentours de la ferme. C'est après tout un ennemi bien connu des fermiers. Mais un autre phénomène récurrent les force à réévaluer la nature de la menace qui plane sur leurs bêtes. Quand les garçons parcourent les champs à la recherche de pointes de flèches, il leur arrive à plusieurs reprises de tomber sur des cadavres de chiens. Lorsque Red inspecte les dépouilles, il s'aperçoit qu'elles présentent toujours les mêmes signes de mutilation. Les corps sont ouverts du bas-ventre à la gorge et tous les organes internes ont été retirés, y compris les yeux et les langues. Autour des cadavres, les Nunnally ne trouvent ni sang ni empreintes. Plus étrange encore, aucun charognard ne s'est attaqué aux carcasses et aucun parasite n'y a élu domicile, pas même une pauvre mouche. En un an, la famille perd un total de 200 poules, une chèvre, un cheval, un cochon et les enfants ne découvrent pas moins de 8 cadavres de chiens. Pour autant, impossible d'identifier l'animal qui décime leurs effectifs. Mais un jour, alors qu'ils se trouvent à proximité d'une petite crique non loin de la ferme, Red et Rose entendent un bruit. Ça ressemble, selon leur dire, à un animal en train de boire. Mais l'intensité des bruits les pousse à penser qu'il doit s'agir d'une très grosse bête, au moins aussi grosse qu'une vache ou qu'un cheval. Ils repartent dans la direction opposée sans aller voir, de peur de tomber sur un prédateur trop féroce. La nuit, la famille entend régulièrement des sons étranges venir des abords de la ferme, comme si quelqu'un ou quelque chose arpentait le périmètre et fouillait un peu partout, à la recherche sans doute, d'une proie à se mettre sous la dent. Et leurs 2 chiens de garde, pourtant dressés pour défendre leur territoire, semblent trembler de peur et se ratatiner dans un coin lorsqu'ils entendent tout ça. Quelques mois après leur emménagement, le fils aîné de Red et Rose, Harold, rejoint le reste de la famille pour aider aux travaux de rénovation de la ferme. Rapidement, Red invite Harold et sa famille à garer leur caravane sur le terrain pour vivre avec eux le temps des travaux. Red souffre d'un glaucome et sa vue baisse de jour en jour. Il se dit que sa famille bénéficiera grandement de la présence d'un autre homme adulte et en meilleure forme pour veiller sur eux en cas de pépin, surtout s'il s'agit d'utiliser une arme à feu. Un jour, la routine des Nunnally est interrompue par l'arrivée d'un homme qui émerge de la forêt et se dirige vers leur maison. En approchant, il lève la main d'un geste amical pour montrer qu'il n'est pas là pour leur causer des problèmes, et une fois arrivé à leur hauteur, Il se présente. Il s'agit d'un voisin. Il s'appelle Roy, vit à moins d'un kilomètre de là et raconte que sa chasse à l'écureuil a été interrompue par une vision cauchemardesque. Alors qu'il pensait traquer une proie de petite taille, il a effrayé un autre genre de créature. Il la décrit comme plus grande qu'un homme, sur deux pattes et entièrement couverte de poils. Voyant qu'elle semblait s'enfuir dans la direction de la ferme, il a décidé de prendre les devants et de venir avertir la famille, au cas où l'étrange silhouette se réfugierait chez eux. Red apprécie énormément l'attention de son voisin et l'invite à prendre le café pour le remercier. Les deux hommes deviennent rapidement amis. Il ne faut pas attendre longtemps pour que les Nunnally voient eux aussi cette fameuse créature qui semble partager leur territoire. Un soir, autour de 20h, Rose sort sur le porche de sa maison pour signaler à son mari et à trois de ses enfants qu'il est l'heure de se mettre à table pour le dîner. Elle regarde autour d'elle pour tenter de repérer ses petits, mais lorsqu'elle tourne la tête à gauche, ses yeux se posent sur une immense silhouette de plus de 2 mètres de haut, couverte de poils, partiellement cachée dans l'ombre d'un cabanon au bout du terrain. Rose hurle à plein poumon et se rue dans la maison, dont elle claque et verrouille la porte, terrorisée. Harold arrive en courant, fusil à la main. Red attrape son arme et, ensemble, ils font le tour du terrain. Pendant ce temps-là, Rose appelle la police en les suppliant de venir au plus vite. Mais ni les autorités, ni les hommes de la famille ne trouvent le vilain monstre velu. Au fil des mois, les Nunnally aperçoivent régulièrement cette silhouette hirsute sur leur territoire, mais ils ne parviennent jamais à l'abattre. Les policiers sont appelés à plusieurs reprises, mais ils font toujours chou blanc, à tel point qu'ils finissent par ne plus se rendre sur les lieux quand Rose et Red les appellent. De toute façon, ils ne croient pas à l'existence de ce monstre, et ça commence à bien faire ces pertes de temps pour se traîner jusqu'à la ferme, tout ça pour ne rien attraper derrière. Alors voilà, terminé. Et pourtant, les Nunnally ne sont pas les seuls à voir cette bête traîner aux alentours de leur ferme. La police reçoit bientôt des appels venant de plusieurs villes environnantes, décrivant les mêmes incidents que la famille qu'ils ont décidé de bouder. Et à la ferme, la créature s'approche de plus en plus. Un soir, Rose la voit courir à travers le jardin et sauter une clôture. Un autre jour, Red se fait carrément poursuivre par la bête dans son champ de tabac, alors qu'il y travaillait seul. Il parvient fort heureusement à rejoindre la ferme en un morceau. Dean, l'un des fils alors âgé de 10 ans, se retrouve presque nez à nez avec elle alors qu'il joue dehors, lorsqu'un fracas monstrueux interrompt son jeu. En levant la tête, quelques mètres plus loin, il voit la silhouette debout, les yeux rivés sur lui. Le petit garçon s'enfuit en courant et alerte toute sa famille. Entre-temps, Red et son voisin Roy sont devenus bons amis. Et Roy étant pompier et plus vaillant que Red, il décide d'offrir ses services à la famille. Il promet aux Nunnally de faire de son mieux pour traquer et tuer la créature. Il la repère un jour, cachée dans une maison abandonnée au fond des bois, et aperçoit son visage penché au niveau de la fenêtre, en train de l'observer. Alors qu'il s'apprête à tirer, Roy cligne des yeux le temps d'ajuster sa vision et paf, la créature disparaît. Perturbé par cette étrange rencontre, il rentre chez lui et ne raconte pas tout de suite l'incident, pas même à sa femme. Il n'abandonne pas pour autant sa mission et continue à chercher le monstre, dont il ne trouve finalement que quelques traces. Des poils, ce qui ressemble à une griffe ou à un croc, et même une empreinte de pas partielle. Empreinte qui, à vue d'œil, a l'air d'appartenir à un animal de taille impressionnante. Les journaux locaux finissent par s'intéresser à l'histoire, et les témoignages des Nunnally sont retranscrits dans plusieurs articles. Des équipes de télévision se rendent également sur les lieux pour recueillir leurs propos et filmer le décor des apparitions de cette étrange créature, que tout le monde compare évidemment à Bigfoot. Pour autant, on lui donne son propre surnom, le monstre de Spotsville. Pas super original, mais ça en jette quand même. La médiatisation de l'affaire fonctionne si bien que, pratiquement du jour au lendemain, des chasseurs de monstres affluent de toute la région, armés jusqu'aux dents et prêts à en découdre avec ce Bigfoot du Kentucky. Mais les Nunnally ne tirent pas vraiment de bénéfice de cet intérêt soudain pour leur déboire. Au contraire, les camarades de classe des enfants se moquent de tous les jours et même Roy, le voisin, est raillé par ses collègues à la caserne. Personne dans les environs ne semble croire à l'existence de ce monstre, en dehors de ceux qui ont croisé sa route. Les événements se poursuivent encore pendant quelques mois, au cours desquels la famille perd encore de nombreuses poules. Mais c'est Roy qui est confronté à la bête pour la dernière fois. Alors qu'il arpente les environs à la recherche de ce monstre qui l'obsède désormais jour et nuit, il est surpris par la pluie. Il court alors vers une vieille grange dans laquelle il se réfugie pour attendre une accalmie. Ce qu'il ignore, c'est qu'il n'est pas le seul à avoir eu la même idée. Au bout de quelques instants, ses poils se hérissent et il sent au plus profond de lui-même qu'il n'est pas seul. Il se retourne alors lentement et se retrouve nez à nez avec un abdomen velu et massif. Cet homme d'1m90 est alors forcé de lever la tête pour enfin poser les yeux sur le visage de la créature. Il décrit son faciès comme particulièrement monstrueux, doté d'un museau court, comme celui d'un chien ou d'un ours, de longs crocs acérés sortant de ses mâchoires inférieures et supérieures. Sous ses poils, il aperçoit quelques centimètres d'une peau noire, et lorsque ses yeux se plongent dans les siens, il constate qu'ils ont une teinte rougeâtre. Cette vision lui glace le sang, mais il parvient à garder son calme et s'apprête à tendre la main vers son fusil accroché à son épaule, mais impossible de bouger. C'est comme si le regard de la bête le clouait sur place. C'est alors qu'il entend le monstre parler dans sa tête. La gueule de la créature ne bouge pas, mais pourtant, Roy entend sa voix lui dire très clairement
« N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. »
Sur ces paroles télépathiques, le monstre se retourne et s'enfuit en courant. Le pompier met quelques instants à retrouver ses moyens et finit par sortir de la grange à son tour. Lorsqu'il regarde autour de lui, dans la boue, il ne trouve aucune empreinte. Quand il raconte cette histoire à Red, celui-ci exprime son inquiétude. Est-ce que cette bête va venir enlever et dévorer ses enfants ? Roy le rassure et lui rappelle que ça fait maintenant 1 an qu'ils vivent ici sans qu'elle ne se soit jamais attaquée à autre chose que des animaux. Et il est donc selon lui peu probable qu'elle s'en prenne aux petits. Red, pas entièrement rassuré, prend alors une mesure légèrement radicale. Pendant les semaines qui suivent, il s'assure d'avoir toujours un bidon de kérosène devant sa porte. Son plan ? Oh, c'est tout simple. Dans le cas où le monstre déciderait finalement de s'en prendre à eux, Red déverserait alors tout le kérosène dans la maison avant d'y mettre le feu. Pour piéger et tuer la bête ? Non, pour tuer toute sa famille et lui avec. Sa logique étant, mieux vaut qu'on crève tous en même temps et qu'on se retrouve au paradis, plutôt qu'on risque de perdre 1 ou 2 membres de la famille aux griffes de la créature. Et toute la famille est de son avis. Mais finalement, le plan change une dernière fois. Peu de temps après le récit de Roy, les Nunnelies remballent toutes leurs affaires, font leurs cartons et leurs adieux, et repartent vivre dans une grande ville, où ils se sentent bien plus en sécurité. Et 10 ans plus tard, ils retentent le coup et s'installent à nouveau à la campagne. Est-ce que tout se passe bien cette fois ? Eh bien, si on considère le fait que la maison soit à la fois hantée et à la fois survolée par des ovnis tous les 2-3 mois en moyenne, bof ! Au moins ça change de Bigfoot, hein ? Ah non, attendez ! Là aussi, il y en avait un ! Avec les yeux verts, cette fois. Quelque chose me dit que le problème ne venait peut-être pas du terrain sur lequel la ferme était bâtie, mais des Nunnelies eux-mêmes. Vous connaissez sans doute des gens qui ont l'air d'attirer tous les problèmes du monde, à qui il arrive toujours le truc improbable. Peut-être même que vous êtes cette personne aux yeux de vos proches. Eh ben, si c'est le cas, dites-vous que ça pourrait toujours être pire. Et qu'au lieu d'attirer les ennuis, vous pourriez attirer les Bigfoot. Et ça me semble quand même vachement moins pratique qu'une clé qui casse dans la serrure ou qu'une voiture qui tombe en panne au milieu d'un rond-point. Feu de camp est un podcast d'Énergie Création, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Romain Nicolas.